Vous écoutez le podcast Madame Innove dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes et pour les femmes. N'oubliez pas de visiter madameinnove.com. Bonjour à tous, je suis Mégane, votre fervente admiratrice. Ce lundi, nous vous partageons le témoignage d'Anne-Claire Ruel, une femme de 38 ans, entrepreneur en communication politique, chroniqueuse sur France Info et CNews. Elle est également enseignante et elle nous raconte comment, en partant de zéro, elle s'est donné les moyens de réussir dans un univers encore fortement dominé par les hommes. Bonjour Anne-Claire, ravie d'être ici avec toi au bistrot Edmond.
C'est ça.
On va discuter un petit peu de toi, de ton parcours. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots,
s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Anne-Claire Ruel, j'ai 38 ans. Ça fait un peu alcoolique anonyme, là comme ça, surtout dans un bistrot, mais c'est pas grave. J'ai un parcours un peu classique, dans le sens où j'ai fait Sciences Po, RDSS de communication politique à la Sorbonne. Et puis ensuite, j'ai intégré une agence de communication qui s'appelait TVWA, une grosse agence. Et je l'ai quitté en suivant le vice-président de cette agence qui a fondé un autre groupe qui s'appelait Equancy. J'ai resté 3 ans et puis un jour j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué, ça s'est fait en quelques heures. Et voilà, je suis partie, j'ai pris mon sac à dos, j'ai fait un mini périple toute seule, donc au Pérou, en Bolivie, etc. C'était en 2012 très exactement et je suis rentrée et j'avais envie d'écrire. Et donc du coup, c'est un peu long, mais moi j'ai proposé une chronique pour décrypter la communication et les stratégies de communication digitale des candidats. Donc à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, François Hollande, voilà.
On était en 2013 du coup.
On était en 2012, l'élection de 2012. J'ai envoyé à tout le monde, la terre entière, il n'y a que 2 médias qui m'ont répondu. Il y a Le Parisien qui m'a dit « c'est super, bon, voilà, on ne peut pas le faire ». Voilà. Et il y a Slate. Il m'a dit c'est chouette, fais un essai à blanc, donc fais un papier en gros et on voit si ça marche. Et ça a marché et donc du coup après j'ai commencé à écrire là-dessus. Après j'ai écrit 2 petits bouquins sur Paris et les métros parce que c'est arrivé comme ça.
Oui.
Et puis après
avoir discuté un petit peu, c'est intéressant. Et du coup, juste pour revenir sur ton déclic de quelques heures, à partir du moment où tu t'es dit je quitte tout, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai réfléchi depuis un moment et c'est venu d'un coup.
Ouais, en fait, c'est un peu comme une relation amoureuse où on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, mais un jour ça se décide en 3 heures. Moi, j'ai adoré ce que je faisais. C'était pas du tout un rejet du job en soi. J'ai adoré ce que j'ai fait, mais je suis quelqu'un de. Je suis un peu comme une vague. Je fonctionne en flux et en reflux. Et donc moi j'étais dans une exposition permanente en fait, je devais tout le temps m'exposer, on avait une équipe, voilà, c'était ça. Et je sentais moi que j'avais envie parfois de reflux un peu et d'être plus, un peu plus dans ma bulle pour pouvoir écrire, pour pouvoir proposer des choses, pour pouvoir un peu innover. Et donc un jour j'ai franchi le pas en fait, j'ai décidé, je me suis dit ok, je vais... J'y vais, j'essaie de jouer là-dessus sur l'idée de flux et de reflux. Et donc le freelance, ça correspondait à ça aussi d'une certaine façon, c'est l'idée de t'exposer quand tu as envie de t'exposer. Et maintenant voilà, je fais de la télé, je fais de la radio. Mais pouvoir rentrer aussi dans ta petite
bulle
ouais. Et puis pouvoir réfléchir à autre chose, innover, proposer autre chose.
Et t'avais quel âge quand ça a démarré?
Oh là là, j'étais déjà assez... j'avais 31 ans. J'avais 31 ans. C'était il y a 7 ans.
Ouais. Il y a 7 ans, ouais. Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai écrit, j'ai commencé à développer, j'ai commencé à enseigner aussi en parallèle. Et en parallèle, j'ai créé ma petite structure, une boîte. Donc,
qui s'appelle comment?
À l'époque, elle s'appelait Felicity Jane. Parce que c'était un peu le côté, c'est mes copains qui m'appelaient comme ça parce que c'était Calimity Jane, mais t'es qui est partie faire un tour du monde et qui est revenue, mais comme j'étais assez gay optimiste, voilà, c'était le nom un peu donné. Et avec la télé tout ça, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément très sérieux quand il fallait décrypter l'actualité politique. Et donc elle s'appelle aujourd'hui Le Board, comme un board de Comex, de Codir, de gens qui dirigent. Et c'est un clin d'œil aussi parce que justement, le visuel, c'est un board extrêmement masculin. Et donc c'est pour jouer un peu sur cette idée-là, parce que je suis une femme et je suis toute seule à la tête de ce truc-là. Voilà. Intéressant. Et du coup, sur ton parcours, est-ce que les voyages, ça t'a aidé à réfléchir à ce que tu voulais vraiment, ce que tu l'as fait avant de te lancer?
Oui, ça m'a vraiment aidé. Je m'étais dit que... Alors j'avais la création, en fait, de l'entreprise où je bossais avant, une grosse agence, mais comment on l'avait créée? De rien du tout. Ouais. Du coup, ça m'avait donné énormément et c'est la chance d'avoir eu un mentor qui était le patron de la boîte qui m'a vraiment aidé à prendre conscience de ça. C'est-à-dire que je pouvais aussi bien réparer au trombone l'imprimante que serrer la main du PDG.
Et tu savais que partir de zéro, c'était possible.
Voilà, je savais que partir de zéro, c'était possible. Je savais qu'en fait, ça m'a donné et il m'a donné confiance en moi pour me dire que ok, tout est possible. Si je m'en donne les moyens, c'est possible. Il n'y a pas de frein, on peut y aller. Alors, parfois on se plante, hein, mais c'est pas grave, on apprend, on se relève, on repart. Et voilà.
Et est-ce que tu peux par exemple nous donner un exemple des difficultés que tu as pu rencontrer quand tu as lancé ta structure?
Alors, j'ai eu du mal à. Alors, peut-être, je sais pas si c'est lié à mon tempérament ou pas, ou à mon peu d'appétence pour ce truc-là, mais j'ai du mal à trouver vraiment voilà, le statut de la boîte qu'il fallait, qui convenait bien.
Sur la partie administrative.
Voilà, la partie administrative. À savoir. En fait, j'ai compris qu'il fallait écouter tout le monde et faire son propre choix en fonction de soi. Et moi, je cherchais trop un truc clé en main. On me dit, c'est ça que tu dois faire. Sauf que le c'est ça que tu dois faire, tu l'entends et avec 10 versions différentes. Donc, à un moment, il faut juste dire, ok, qu'est-ce que je veux pour moi? J'écoute toutes les versions et j'habite en fonction de ça.
Et finalement, tu as choisi quel statut?
Alors, j'ai une SARL unipersonnelle. Et je suis en train de réfléchir pour essayer de la passer en SASU, mais voilà, c'est encore un autre débat. Et comme si, voilà, je suis pas. J'ai essayé de me pencher là-dessus.
D'accord, donc ça c'est vraiment une difficulté qui t'a marqué dans ton parcours et dans la création de ta structure.
Oui, en même temps ce qui m'a marqué c'est l'aide apportée par tous les gens qui sont passés par là parce que finalement tout le monde a eu les mêmes galères au moment de la création d'entreprise et de boîte. Et donc du coup c'était les meilleurs conseils et les plus grands soutiens. Et j'ai eu un autre gros soutien aussi, c'est que moi je suis assez liée juste amicalement en fait avec des gens qui font beaucoup de musique. Des artistes, des artistes numériques et tout ça. Et en fait, mes potes qui étaient musiciens, c'est les premiers à m'encourager.
Parce que ces artistes eux-mêmes, ils ont dû se débrouiller par eux-mêmes.
Ils ont dû se débrouiller eux-mêmes. C'est peut-être des mecs qui, aujourd'hui, c'est des mecs qui tournent avec des groupes un peu connus. Mais en fait, ils se sont vendus un peu en mode mercenaire aussi quand ils ont commencé. Et donc, de la même façon, ils sont allés, ils sont. Enfin, il faut en vivre quoi, donc à un moment voilà, il faut aussi réfléchir à tout ça, il faut avancer, il faut pas avoir peur, et si tu commences à avoir peur, bah, voilà. Tu peux pas te lancer, donc si tu réfléchis trop, c'est pas possible.
Et du coup, tu as plein de casquettes au quotidien, c'est-à-dire que tu es à la fois, déjà tu es enseignante, chroniqueuse, et à la fois tu es un petit peu commerciale pour pouvoir te vendre, et puis à la fois peut-être un petit peu comptable.
Mais en fait on s'aperçoit assez vite que tout ça c'est assez lié. Moi je fonctionne sur... Le travail, c'est un tripalion, c'est l'idée de trois pieds. Moi, mes trois pieds, c'est l'enseignement. Effectivement, j'enseigne à Paris 13, donc en communication politique. Mais enseigner, finalement, c'est aussi faire des chroniques. Donc, je chronique un peu sur CNews, dans son temps sur LCI, sur Sud Radio, voilà. Mais c'est de la même façon, en fait, c'est décrypter l'actualité au regard de la communication pour des gens qui écoutent. C'est aussi transmettre d'une certaine façon.
Ouais.
Et la boîte, c'est en lien avec des clients et c'est aussi une forme de transmission, c'est-à-dire qu'est-ce que tu leur apprends, comment tu peux les coacher, comment tu peux les conseiller au mieux pour qu'ils puissent aussi avoir les armes pour pouvoir communiquer.
Et toi, en tant que femme dans cet univers-là, que ce soit dans l'enseignement ou en tant que chroniqueuse, est-ce que tu as senti des différences ou est-ce que ça a pu aider parfois ou...
Alors, pour la télé, moi je dirais que. Mes copains me diraient non, c'est pas vrai, tout ça, mais je pense que c'est vrai. C'est qu'il y a une discrimination positive. Parce que je suis sur des sujets comme c'est le décryptage de la communication, mais plutôt de l'actualité. C'est forcément des sujets très politiques. Et donc il y a beaucoup plus d'hommes un peu plus âgés ou pas, mais sur ces sujets-là. Donc forcément, quand il y a une femme, ça se voit. Et peut-être que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention pour essayer de maintenir une égalité entre hommes et femmes sur les plateaux télé. Donc là, c'est vrai que c'est important.
l'enseignement.
C'est discrimination positive, du coup.
Oui,
d'une certaine façon, c'est-à-dire de pousser
les femmes. Voilà. Je me suis inscrite sur un réseau qui s'appelle Les Expertes, notamment.
D'accord.
Ça fait quelques années déjà. Et je sais que, par exemple, il y a des journalistes qui m'ont trouvée parce que j'étais inscrite là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'ils veillent à trouver aussi bien des gens qui peuvent analyser, qu'ils soient hommes et femmes. Et je trouve ça plutôt pas mal.
Ouais, c'est génial. Et en tant qu'enseignante ?
Enseignante, non. Je n'ai pas l'impression que... voilà, mais quoi que ce soit comme plafond de verre, après, je pense qu'il n'y a pas de lien avec ça. Non.
Et dans ton parcours, dans ce que tu as pu vivre, même au quotidien, est-ce que toi, tu as des petits succès du quotidien qui te marquent? Par exemple, tu as eu ta première chronique sur Slate.
Oui,
c'était marquant.
Alors, oui, il y a... Bah, je dirais que c'est la même chose que les flux et le reflux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut... Moi, j'ai l'impression qu'il faut semer, c'est-à-dire que tu sèmes 10 graines différentes et tu n'auras peut-être qu'une seule pousse. Mais c'est pas grave, c'est celle-ci qui compte. Et tu referas la même chose après, tu continueras à semer 10 petites graines et il y en aura peut-être une qui va pousser. Et puis après, il y a des choses qui se mettent en coordination, en fait, et tu ne sais pas. Et en fait, voilà, plus tard, quelque chose que tu as fait il y a 3 ans va te servir aujourd'hui.
C'est le cas pour toi, ouais.
Oui, moi j'ai beaucoup de ça. Je sais pas, je suis peut-être chanceuse, mais quand j'ai. Par exemple, j'ai fait la télé avec Pierre Lescure et Marc-Olivier Fogiel dans une émission qui s'appelait Masterclass sur France 4. Je crois que t'es venue d'ailleurs cette émission.
Oui.
Et en fait, ça, je l'ai fait parce que en fait, quand j'étais étudiante, j'avais fait un mémoire sur. Les journalistes et politiques et téléspectateurs, et c'était les premières émissions de Marc-Olivier Fogiel sur. On ne peut pas plaire à tout le monde, je crois.
Oui.
Et donc il invitait des politiques sur le plateau de télévision. Et en fait, 10 ans après, quand j'ai commencé à écrire mes premiers papiers pour Slate, j'étais suivie par quelqu'un qui s'appelle Nicolas Pisson, qui est en fait son bras droit, un peu toujours. Et j'ai envoyé un petit DM sur Twitter en lui disant « Bonjour, vous ne vous souvenez certainement pas de moi, mais moi je me souviens très bien de vous. » Il y a 10 ans, j'étais venue, j'étais étudiante, voilà. Il m'a dit qu'il m'avait... oui, qu'il se souvenait de moi. Je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas, on ne saura jamais.
En tout cas, le résultat est là.
Et un jour, il a eu besoin de quelqu'un pour une émission. Et donc, du coup, voilà, j'ai monté à la fois un partenariat avec l'université pour faire venir les étudiants et donner de la visibilité. Et puis en même temps, assurer l'émission. Et donc, c'était quelques jours sur ma boîte, là.
Sympa.
Ouais.
Ouais, donc effectivement, les petites graines semées...
Exactement, là, 10 ans avant, voilà, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et puis après, les chroniques, tout s'est enchaîné en fait, parce que par exemple, j'ai commencé à écrire pour Slate, et ensuite, il y a Anne Sinclair qui avait monté le HuffPost. Donc j'ai cherché son adresse mail, et un jour, mon mail est parti. Et donc après, j'ai commencé à écrire pour elle, comme ça. Et puis après, France Info est venue après, parce qu'ils montaient une plateforme de blog, et donc aujourd'hui, j'écris sur France Info.
Donc c'est eux qui sont venus chercher là pour le coup.
Et je connaissais quelqu'un de là-bas aussi.
D'accord.
Et donc du coup c'était bon timing et tout. Et ils me lisaient déjà. Et donc du coup c'était très bien. Et donc maintenant j'ai un blog qui s'appelle Fais pas comme papa sur France Info. Je fais de la pub. Hein.
Ah t'as raison.
Et voilà, où j'essaie d'écouter l'actualité, on regarde la communication.
Et du coup, toi par rapport à ce travail-là, tu passes beaucoup de temps à semer ou à travailler ton réseau, ou ça se fait d'une manière un peu officieuse?
Ouais, je ne fais pas assez, je ne fais vraiment pas assez, parce que j'ai eu assez de chance en fait. Au tout début, j'ai travaillé avec des gens avec qui j'avais déjà travaillé, plus ou moins des agences, c'était un peu facile. Mais si j'avais un conseil, ce serait vraiment de ne pas négliger cette idée de réseau, parce que mine de rien, après on est happé par le flux quotidien de la production, donc on va faire les choses, on court un peu dans tous les sens, etc. Et on ne nourrit pas forcément le réseau. Mais c'est pas négatif pour moi, c'est-à-dire, je sais pas comment dire, le réseau c'est pas quelque chose de négatif dans le sens opportuniste. C'est juste en fait prendre des nouvelles, parce qu'encore une fois, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver 10 ans après, on peut peut-être changer de vie, et voilà. On n'est pas monolithique dans la vie, on sera amené à changer, à évoluer, à fonctionner avec ses envies. Et donc c'est important de voilà, garder les liens tout simplement, quoi, humain avec les gens qu'on a bien aimés.
Et
par rapport à la personne dont tu parlais tout à l'heure en tant que mentor, est-ce que toi, tu as eu des personnes ou des livres ou des instants qui t'ont inspiré dans ta vie? Des femmes que tu as pu rencontrer ou des hommes que tu as pu rencontrer?
Alors, c'est compliqué. Il y a un livre qui m'a... Alors, il y a un livre dont je me sers comme écritoire tous les jours.
C'est vrai?
Donc, juste pour poser mes feuilles et écrire, parce que j'écris encore parfois à la main, hein, j'écris pas seulement que sur mon...
Authentique.
Voilà. Notamment pour prendre des notes pour écrire les papiers, c'est marrant, je garde ce réflexe-là encore. Et le titre du livre, c'est « Les femmes qui lisent sont dangereuses ».
Ça me parle, ça.
C'est un livre de Laure Adler, notamment, coécrit avec quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens plus du nom, malheureusement.
On mettra dans la...
Voilà. Et j'ai trouvé toujours ça intéressant parce que, voilà, les femmes qui lisent sont dangereuses. Voilà. Le savoir est un pouvoir, aussi bien pour les hommes, pour les femmes, évidemment, mais on voit que, voilà, c'est à travers la peinture, les écrits, on voit voilà, la prise de pouvoir des femmes au fur et à mesure sur leur environnement, sur s'émanciper. Enfin, je trouvais ça intéressant. Et c'est tous les jours mon écriture. Voilà. Je vois tous les jours les femmes qui sont dangereuses. Tous les jours. Voilà.
Un mantra qui.
Peut-être, je sais rien. Mais en même temps, il n'y a pas une idée de danger, il y a une idée de coopération justement,
bien
et
sûr.
D'équité et de ses petits. Voilà. Et ça m'a aidé, ouais, ça m'a aidé.
Et est-ce que toi tu te considères comme féministe ou pas?
La thématique est assez égale. Oui, je suis féministe, mais pas dans le sens hardcore du terme, on va dire. Féministe dans le sens plutôt courte échelle, je dirais.
Savoir égalité homme-femme.
Voilà, et puis voilà, l'entraide, et autant de visibilité. Et je trouve qu'il y a des combats qui sont perdus, mais les combats ils viennent pas que de la sphère professionnelle, ça vient aussi de la sphère privée.
Ouais.
Et là, il y a, je crois qu'il y a, alors j'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Il est paru depuis quelques mois déjà, un livre de Titou Lecoq qui s'appelle Libérée, où elle prend conscience des choses. Un jour, elle a un compagnon et deux enfants, et elle se rend compte que c'est elle qui ramasse les chaussettes de tout le monde.
Oh mon Dieu.
Et un jour, elle pète un câble et elle comprend en fait. Même si elle enseigne à ses petits garçons, ses deux petits garçons, l'égalité, si leur père concrètement ne ramasse pas les chaussettes devant eux, ils ne comprendront jamais ce qu'est l'égalité.
Et en fait, elle a été formatée dans son
oui, et je pense que ça reste encore ancré sur l'idée de la femme qui doit s'occuper des choses. Même si on se bat et que ça commence à devenir un peu plus facile, la voie professionnelle et encore, voilà, la maternité, c'est aussi une autre question. Mais voilà. Et c'est compliqué parce qu'il faut se battre au quotidien et avec voilà, la personne avec qui on vit, qui est quand même une personne qu'on aime bien, et parfois on se dit pour une chaussette je vais laisser tomber. Et non,
non, écoute, ne laissons pas tomber la chaussette.
Voilà, je ne vais pas laisser tomber parce que ça passe aussi par là, parce que les générations futures ça passe aussi par là. Et donc si, voilà, c'est la courte échelle aussi, voilà, entre hommes et femmes, il faut s'entraîner quoi.
Ok, super. Et est-ce que tu aurais un conseil, un dernier conseil à donner à toutes les femmes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un défi qu'elles se seraient lancées?
Alors, écoutez les conseils de tout le monde et faites votre propre avis. C'est ça mon conseil parce que voilà, même si c'est pas de chercher une solution toute prête, elle n'arrivera jamais. Donc voilà, il faut tout le monde des bons conseils, mais après il y a soi et soi-même. C'est pas grave si vous plantez, c'est pas grave, on se relève. Encore une fois, voilà, une petite graine semée, une qui pousse, c'est déjà un bon ratio. Il faut s'armer de patience. Parce que quand on bosse pour soi, on a toujours l'impression que tout est très lent, que les gens mettent un temps fou à répondre, que voilà, le temps est. Il y a une distorsion du temps. Non, ils ont juste une autre vie et nous, c'est vraiment très très important pour nous. Et voilà. Et sinon sur cette idée de flux et reflux pour les gens comme moi, un peu timides à la base, qui vont contre nature faire des choses très visibles, voilà, comme de la télé ou de la radio. Pensez à vos temps de bulle pour vous ressourcer effectivement, parce que très vite en fait, quand la boîte prend le dessus, on peut être vraiment amené à à faire que la boîte, et oublier qu'en fait, oublier qu'on a besoin de hauteur, qu'on a besoin de, voilà, justement de se reposer, d'avoir des mouvements un peu off, qui nous permet d'emmagasiner de l'information, de lire, de sortir, de bouquiner et tout ça. On en fait quelque chose encore une fois. On en fait quelque chose au quotidien, donc c'est hyper important, cet équilibre-là.
Super. Merci beaucoup pour ce témoignage, Anne-Claire, et à très bientôt.
À bientôt.
Merci.
J'ai été ravie de partager ce moment avec Anne-Claire. Encore une fois, elle nous prouve, et au travers de son témoignage, que tout est possible et qu'on peut très bien se lancer en partant de rien. Donc on est contente de pouvoir partager ce moment avec vous et on espère avoir de nombreux commentaires. Et n'hésitez pas à nous partager vous aussi votre expérience. Merci encore pour vos écoutes. Vous écoutez le podcast Madame Innove dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes et pour les femmes. N'oubliez pas de visiter madameinnove.com.